Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Eh bien, nous sommes le 8 mars. Alors même si nous ne sommes pas un samedi, vous allez y avoir droit. Et puis, il n'y aura pas qu'aujourd'hui. On vous prévient tout de suite. Ça va être tous les jours. Voilà donc contre histoire du 8 mars 2017.
Sans passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Le fond, nous femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, asservies, humiliées. Les femmes achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes. Les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous.
Ève est née en 1791. La Déclaration des droits de l'homme de 1789, en son article 1er, précisait « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Car en 1789, comme chacun sait, les femmes n'existaient pas. Ou si peu. Alors moi je préfère la correction de cet article par Olympe de Gouges en 1791. Article 1 de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. En 1789, toujours, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme précise aussi « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. » Alors, la femme n'a pas de droits naturels. Ou alors, ses droits ne sont pas imprescriptibles. Alors, je préfère toujours la déclaration d'Olympe. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. Et l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 déclarait « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. » Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Ouais. Mais la version que je préfère est encore celle d'Olympe. Article 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation, qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul corps, nul individu ne peut exercer une autorité qui n'en émane expressément. Olympe dit bien la réunion et pas l'union. Les femmes sont la moitié du ciel, mais l'union de la femme et de l'homme n'est pas une obligation. En 1789, l'article 4 de la Déclaration des droits dite de l'homme ajoute « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. » Toujours pas de traces de femme. À moi, Olympe! Elle nous dit ce qui limite la liberté de la femme. La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. En 1789 toujours, l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme précise « La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. » Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. Et j'aime bien aussi la version Olympe. Les lois de la nature et de la raison défendent toute action nuisible à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par ces lois sages et divines ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elles n'ordonnent pas. Et l'article 6 de cette déclaration de 1789 disait « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. Si on rajoute « citoyenne », je suis d'accord. En 1791, cet article 6 est devenu « La loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et les citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous. Toutes les citoyennes et les citoyens étant égaux à ses yeux doivent être également admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leurs vertus et talents. »
Le charbon, la chapine, le coulis, la peau chapée, la grosse babine, la tête grainée qu'on adoucit à la vaseline, et le créole et son mélange de mélanine. Connais-tu le morne et la ravine, le béquet qui très souvent tient les usines, la maquerelle qui passe son temps chez la voisine, et le crack et ses déchets de cocaïne. Connais-tu le Montpellier et la savane, les pêcheurs du Carbet, les poissons de Tartane, et les touristes aux seins nus à la plage des Salines, pendant que la crise de la banane s'enracine. Connais-tu France Fanon, Aimé Césaire, Eugène Monnat et Thiémile? Sais-tu que mes cousins se foutent des bains de mer et que les cocotiers ne cachent rien de la misère? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on soigne tout avec le rhum, la tristesse, les coupures et les angines, que d'Afrique de l'Ouest et d'Inde sont nos origines, que l'on mange riz et curry comme tu l'imagines? Sais-tu que chez moi aux Antilles, c'est la grand-mère et la mère, le chef de famille, que les pères s'éparpillent et que les jeunes filles élèvent seules leurs gosses, les nourrissent et les habillent? Sais-tu qu'on n'écoute pas David Martial, la compagnie créole et c'est bon pour le moral, et que les belles doudous ne sont pas à la cuisine à se trémousser sur un tube de zouk machine? Sais-tu que là-bas les petits garçons jusqu'à 4 ans doivent garder les cheveux longs? Et sais-tu aussi que mon prénom et mon nom sont les restes du colon britannique et breton? Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Sais-tu qu'on prie avec la Bible, faites le carnaval comme toute la Caraïbe, que nos piments sont redoutables, nos anciens portent des noms du sexe opposé pour éloigner le diable? Sais-tu que chez nous c'est en blanc, et au son des tambours qu'on va aux enterrements, et qu'une fois par an, cyclone et grand vent emportent case en tôle tous les vêtements? Sais-tu, comme enfants et femmes, labourer les champs et puis couper la canne? Sais-tu que tous étaient victimes, esclaves ou nègres marrons, privés de liberté et vie intime? Sais-tu que notre folklore ne parle que de cris, de douleurs, de chaînes et de zombies? Mais putain, sais-tu, encore aujourd'hui, Madinina, l'île aux fleurs est une colonie. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, j'y vais par période, c'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes, et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, arrivée par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du matras sur les draps, les robes. Et puis sur la table, du crabe, du shrub. Chez moi, hein, à ma famille et aux Antilles.
L'article 7 déclare « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. » Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance. Oulala, le danger! Et même si cette formulation a disparu par la suite, sauf code pénal, j'ai bien l'impression que l'énormité qui apparaît dès que l'expression « en vertu de la loi » est mal interprétée sert aujourd'hui de parapluie à tous les soi-disant gardiens de la paix et de l'ordre qui se proclament représentants de la loi et ne font qu'imposer leur force et leur barbarie. Voir d'ailleurs plus loin l'article 12 de cette Déclaration des droits de l'homme de 89 qui prévoyait déjà les dérives possibles et qui parle d'une force publique instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Et Olympe de Gouges complétait « Nulle femme n'est acceptée. Elle est accusée, arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse. » En 1789, que disait l'article 8 ? La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée. Et légalement appliquée aux femmes, ajoute Olympe, c'est-à-dire pour les femmes comme pour les hommes. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée aux femmes. Et la Déclaration des droits de l'homme de 1789 toujours stipule dans son article 9 « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. Toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Très bien. Et Olympe ajoute quelque chose d'autre. Toute femme étant déclarée coupable, toute rigueur est exercée par la loi. Ce qui veut dire, messieurs, que c'est pas la peine de nous traiter de sous-êtres humains, de pauvres faibles femmes, et de nous épargner parce que nous sommes des femmes. Au contraire, c'est une question de dignité d'être traité à égalité par la loi et sanctionné de la même façon éventuellement. Cette déclaration des droits de l'homme de 1789 toujours précise en son article 10 « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Alors on a le droit d'avoir des opinions et de les manifester. En voilà une chose intéressante. Et voilà ce que précise Olympe. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même fondamentales. La femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle doit aussi avoir celui de monter à la tribune, pourvu que ses manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Et l'article 11 de cette déclaration de 1789 ajoute « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Certes, mais alors là, il me semble qu'il y a un petit détail assez important que le législateur homme a oublié et qu'Olympe a précisé. Écoutons-la. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute citoyenne peut donc dire librement « Je suis mère d'un enfant qui vous appartient », sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Et l'article 12, en 1789, énonce « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée, comme on en a parlé précédemment. C'est parfait de prévoir d'apporter la force publique pour défendre le droit, mais comme ce sont souvent les droits de la femme qui sont bafoués, ce serait intéressant qu'elle puisse aussi avoir recours à la force publique. Et aussi logique qu'on lui empêche, comme à l'homme, d'en faire des abus de pouvoir, comme le dit Olympe. La garantie des droits de la femme et de la citoyenne nécessite une utilité majeure. Cette garantie doit être instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de celle à qui elle est confiée. suit l'article 13 en 1789 pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. De la même façon, la femme paie ses impôts. Mais peut-être faudrait-il qu'elle bénéficie de ce qu'on fait avec, non? Écoutons Olympe. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales. Elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir, de même, part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. En 1789, toujours, l'article 14 énonce que tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. D'accord. Ajoutons citoyenne, comme le fait Olympe. Les citoyennes et les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique. Les citoyennes ne peuvent y adhérer que par l'admission d'un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans l'administration publique, et de déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée de l'impôt. Et l'article 15 de la Déclaration de 1789 stipule « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. » Les femmes aussi, a dit Olympe. La masse des femmes coalisées pour la contribution à celle des hommes a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et l'article 16 de 1789 annonçait toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. D'accord, mais peut mieux faire. Et la constitution, qui la vote? Alors je préfère cette précision d'Olympe. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. La constitution est nulle si la majorité des individus qui composent la nation n'a pas coopéré à sa rédaction. Et le 17e et dernier article de la Déclaration de 1789 énonce « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » Pas mal. Mais mieux vaut être précis. Les propriétés sont à tous les sexes réunies ou séparées. Elles sont pour chacun un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé comme vrai patrimoine de la nature, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. On a eu souvent des variantes de la Déclaration des droits humains, mais on peut remarquer qu'en 1793, le texte était resté le même qu'en 1789, alors que tous les parlementaires connaissaient la Déclaration des droits de la femme qui avait valu à Olympe de Gouges que Robespierre la fasse guillotiner. En fait, il faut attendre la déclaration de 1948, après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, pour arriver à une déclaration des droits humains, que l'on peut encore améliorer. Elle est assez belle, cette déclaration, quoique imparfaite. Certains droits sont sous-entendus, et la déclaration universelle des droits de l'humanité de 1948 précise opportunément nombre d'entre eux, en appelant un chat un chat. Par exemple, la libre circulation, le droit d'asile, la nationalité, la vie privée, le droit au mariage, la sécurité sociale, le droit au travail, le droit au repos, le droit à un niveau de vie décent, les droits des enfants, le droit à l'éducation, le droit à la culture, la liberté de réunion, la présomption d'innocence, l'interdiction de la torture, de toute discrimination ou autres actes dégradants qui semblaient ne pas avoir cours au XVIIIe siècle. Aurions-nous inventé tout cela avec le progrès? Mais le problème est que, au XXIe siècle, cette déclaration des droits universels de l'humanité n'est toujours pas correctement appliquée, même en France. Et on peut constater que l'identification des bénéficiaires de cette déclaration reste toujours très masculine, masculiniste même. Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Préambule. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité, et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime du droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations. Considérant que dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer les meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement, l'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme. comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société ayant cette déclaration constamment à l'esprit s'efforcent par l'enseignement et l'éducation de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer par des mesures progressives l'ordre d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelle et effective tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Vous savez bien que nombre de gens ne se reconnaissent plus dans la France et préfèrent s'enfuir au loin pour pouvoir y tenter leur chance. Votre république d'exclusion est une honte pour la nation, tout comme celle d'intégration qui va céder sous la pression. Vous n'avez point les armes qu'il faut pour pouvoir taire une conviction, ouvrant les vannes d'une folie que vous ne pourrez point contrôler. L'identité de tout un peuple ne peut s'écrire sur ce papier, même plastifié, les droits de l'homme ne pourront plus être protégés. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. La justice, qu'en pense-t-elle puisqu'elle ne peut point s'exprimer? Elle s'exécute convenablement sous la pression de l'Élysée, mettant en cause l'un des fondements de la structure démocratique. On interfère dans les affaires quand ces dernières deviennent critiques, usant des procédés injustes, des républiques bananières, comme un joker sorti de sa manche que l'on appelle raison d'État. Mais quand l'État manque de raison, c'est la balance qui penche et on se cache derrière s'injuste comme une femme sous la burqa. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France. Dans la chambre des députés, on appelle au dialogue de sourds, et sa chante et sa caquette pour être le coq de la basse-cour. C'est le bordel dans cette piole, faudrait penser à faire le ménage. La dernière fois que cela fut fait devait dater du Moyen-Âge. Chacun y va de son coup de gueule, donnant ses lois incohérentes. Mais commencer par s'écouter serait peut-être la base d'une bonne entente. Messieurs les députés de France, souriez donc, vous êtes filmés, vous êtes devenus les nouvelles stars de cette France réalité. Madame la République française, aurais-je le droit de dire ce que je pense? Si ce n'est pas le cas, je le prendrai comme le devoir de ma conscience. Madame la République française, qui répondra de ses doléances? Je suis ni pute ni soumis, je suis un citoyen de France.